Je ne puis visiter le musée du Louvre sans m'arrêter et rêver, souvent longtemps malgré moi, devant le Charles Ier de Van Dyck. Ce tableau contient à la fois l'histoire d'Angleterre et celle de France. Il a eu sur nos affaires une influence directe qu'ont rarement les œuvres d'art. Le grand peintre, à son insu, y mit le destin de deux monarchies. L'histoire du tableau lui-même est curieuse. Il faut la prendre un peu haut, dire comment il va en France. Lorsque le ministère et Guillaume Maupeou voulut décider Louis XV à briser le Parlement, il y avait une opération préalable à faire, rendre au vieux roi usé la faculté de vouloir en refaire un homme. Pour cela, il fallait fermer le sérail où il s'éteignait, lui faire accepter une maîtresse, le réduire à une femme. Rien n'était plus difficile. Il fallait que cette maîtresse, fille folle, hardie, amusante, mît les autres à la porte, qu'elle n'eût pas trop d'esprit, ne fit pas la Pompadour, mais qu'elle eut assez d'esprit pour répéter à toute heure une leçon bien apprise. Le maréchal de Richelieu, grand maître en ces choses, ayant bien cherché, on n'ose dire où, découvrit la fille, et en même temps, pour la relever un peu, il trouva un drôle de bonne naissance qui se chargea de l'épouser avant de la donner au roi. Madame du Barry, c'est son nom, joua son rôle à merveille. Elle surprit le roi par l'audace et la familiarité. Elle l'amusa en se moquant de lui, du matin au soir, l'éveillant tant qu'elle pouvait, le sommant d'être homme et roi. Il y avait peu à compter sur les velléités royales que l'on suscitait en lui. Aussi, elle ne le lâchait guère. Jusqu'au conseil, elle le suivait ardemment. Et devant le chancelier, devant ces graves personnages, sans respect humain, elle perchait, comme un singe, sur le bras de son fauteuil. Cette singulière égérie, lui soufflant la royauté la nuit et le jour, n'eût pas réussi peut-être avec un tel homme si, à l'appui des paroles, elle eût appelé le secours des yeux, rendu sensible et visible à la leçon qu'elle répétait. On acheta pour elle en Angleterre le tableau de Van Dyck sous le prétexte étrange que le page qu'on y voit s'appelait Barry. C'était pour elle un tableau de famille. Cette grande toile, digne de respect et comme œuvre du génie, et comme monument des tragédies du destin, fut établie, chose indigne, au boudoir de cette fille, dut entendre ses éclats de rire, voir ses ébats effrontés. Elle prenait le roi par le cou et lui montrant Charles Ier, « Vois-tu la France ?» C'est ainsi qu'elle appelait Louis XV. « Voilà un roi à qui on a coupé le cou parce qu'il a été faible pour son parlement. Va donc ménager le tien. » Dans ce petit appartement très bas, une suite de mansardes qu'on voit encore dans les combles de Versailles, le grand tableau, vu si près, de plein pied, face à face, eût été d'un effet pénible pour un homme moins fini de cœur et de sens moins amorti. Nul autre que Louis XV n'eût porté, sans en souffrir, ce triste et noble regard où se voit une révolution tout entière, cet œil plein de fatalité qui vous entre dans les yeux. On se rappelle que le grand maître, par une sorte de divination, a d'avance peint Charles Ier comme au dernier jour de sa fuite. Vous le voyez simple cavalier en campagne contre les têtes rondes. Il semble que de proche en proche, il est acculé à la mer. On la voit là, solitaire et inhospitalière. Ce roi des mers, ce lord des îles, a la mer pour ennemi. Devant lui, l'océan sauvage. Derrière, l'attend l'échafaud. Ce tableau mélancolique, placé sous Louis XVI aux appartements du roi, dut le suivre à Paris avec le mobilier de Versailles. Nul autre ne pouvait faire plus d'impression sur lui. Il était fort préoccupé de l'histoire d'Angleterre et très spécialement de celle de Charles Ier. Il lisait assidûment Hume et autres historiens anglais dans leur langue. Il en avait retenu ceci que Charles Ier avait été mis à mort pour avoir fait la guerre à son peuple et que Jacques II avait été déclaré déchu pour avoir délaissé son peuple. S'il y avait une idée arrêtée en lui, c'était de ne point s'attirer le sort, ni de l'un ni de l'autre, de ne point tirer l'épée, de ne point quitter le sol de la France. Indécis dans ses paroles, lent à se résoudre, il était très obstiné dans les idées qu'il avait conçues une fois. Nulle influence, pas même celle de la reine, n'eût pu le tirer de là. Cette résolution de ne point agir, de ne point se compromettre, allait d'ailleurs parfaitement à son inertie naturelle. Il était fort indisposé contre les émigrés qui remuaient sur la frontière, criaient, menaçaient, faisaient blanc de leur épée sans s'inquiéter s'il s'aggravait la position du roi dont ils se disaient les amis. En décembre 90, leur conseil se tenant à Turin, le prince de Condé proposait d'entrer en France et de marcher sur Lyon, quoi qu'il pût arriver au roi. Louis XVI avait de plus un autre scrupule pour faire la guerre. C'était la nécessité de s'aider de l'étranger. Il connaissait très bien l'état de l'Europe, les vues intéressées des puissances. Il voyait l'esprit intrigant ambitieux de la Prusse qui, se croyant jeune, forte, très militaire, poussé surtout au trouble pour trouver quelque chose à prendre. Dès 1789, la Prusse était là, qui offrait à Louis XVI d'entrer avec 100 000 hommes. D'autre part, le machiavélisme de l'Autriche ne lui était pas moins suspect. Il n'aimait pas ce Janus à deux faces, dévot, philosophe. C'était pour lui une tradition paternelle et maternelle. Sa mère était de la maison de Saxe, son père, le dauphin, crut mourir empoisonné par Choiseul, ministre lorrain, créature de Lorraine-Autriche, élevé par Marie-Thérèse et Guémaria Louis XVI à une autrichienne. Quoique tendrement attaché à la reine, il devenait fort défiant quand elle parlait de recourir à la protection de son frère Léopold. La reine n'avait nulle autre chance. Elle craignait extrêmement les émigrés. Elle n'ignorait pas qu'ils agitaient la question de déposer Louis XVI et de nommer un régent. Elle voyait près du comte d'Artois son plus cruel ennemi, Monsieur de Calonne, qui, de sa main, avait annoté, corrigé le pamphlet de Madame de la Motte contre elle dans la vilaine affaire du collier. Elle avait à craindre de ce côté plus que de la Révolution. La Révolution, n'en voulant qu'à la reine, ne lui eut pris que la tête. Mais Calonne eût pu faire faire le procès à la femme, à l'épouse, la déshonorer peut-être juridiquement, l'enfermer. Elle se tint sans variation au plan des hommes de l'Autriche, Mercier et Breteuil. Elle amusa Mirabeau, puis Lamède, Barnave, pour gagner le temps. Il en fallait pour que l'Autriche sortît de ses embarras, de Brabant, de Turquie et de Hongrie. Il en fallait pour que Louis XVI, travaillé habilement par le clergé, fit céder ses scrupules de roi aux scrupules de chrétien, de dévot. L'idée d'un devoir supérieur pouvait seule le faire manquer à ce qu'il croyait un devoir. Le roi, s'il le voulut, pouvait fort aisément partir seul, sans suite, à cheval. C'était l'abbé de Clermont-Tonnerre. Ce n'était nullement celui de la reine. Elle ne craignait rien tant au monde que d'être un moment séparée du roi. Peut-être aurait-il cédé aux insinuations de ses frères contre elle. Elle profita de l'émotion qu'il eut au 6 octobre, lorsqu'il crut qu'elle avait été si près de périr. Pleurante, elle lui fit jurer qu'il ne partirait jamais seul, qu'ils ne s'en iraient qu'ensemble, échapperaient ou périraient ensemble. Elle ne voulait même pas qu'ils partissent au même moment par des routes différentes. Louis XVI refusa au printemps de 90 les offres qu'on fit de l'enlever. Il ne profita pas pour fuir de ses jours à Saint-Cloud qu'il fit dans la même année. Il y avait toute facilité, allant tous les jours à cheval ou en voiture et à plusieurs lieux. Il ne voulait laisser personne, ni la reine, ni le dauphin, ni Madame Élisabeth, ni mesdames. La reine ne pouvait se décider non plus à laisser telle dame confidente, telle femme qui avait ce secret. On ne voulait partir qu'en masse, en troupes, en corps d'armée. Dans l'été de 90, l'affaire du serment des prêtres, troublant fort la conscience du roi, on le poussa à la démarche d'écrire aux puissances et de protester. Le 6 octobre 90, il envoya une première protestation à une cour parente, à son cousin, le roi d'Espagne, celui de tous les princes dont il se défiait le moins. Puis il écrivait à l'empereur, à la Russie, à la Suède. En dernier lieu, le 3 décembre, il s'adressa à la puissance qui lui était la plus suspecte, ayant voulu tout d'abord se mêler des affaires de France. Je parle de la Prusse. Il demandait à tous un congrès européen appuyé d'une force armée, sans expliquer s'il voulait que cette force fût active contre la Révolution. Les rois n'avaient généralement point de hâte. Le Nord branlait. La Révolution de Pologne était imminente. Elle éclata au printemps, 3 mai, et prépara un nouveau démembrement. Les autres États, destinés à être absorbés tôt ou tard, la Turquie, la Suède, étaient ajournés. Mais déjà Liège et le Brabant venaient d'être dévorés. Le tour de la France arrivait dès qu'elle serait assez mûre. Les rois, dit Camille Desmoulins, ayant goûté du sang des peuples, ne s'arrêteront pas aisément. On sait que les chevaux de Diomède, ayant une fois mangé de la chair humaine, ne voulurent plus rien autre chose. Seulement, il fallait que la France devînt mûre et tendre avant d'y mettre la dent, qu'elle s'affaiblit, se mortifiât par la guerre civile. On l'y encourageait fort. La grande Catherine écrivait à la reine pour l'animer à la résistance, cette parole qui vise au sublime. Les rois doivent suivre leur marche sans s'inquiéter des cris du peuple, comme la lune suit son cours sans être arrêtée par les aboiements des chiens. Imitation burlesque de Lefranc de Pompignan, ici d'autant plus ridicule que, pour suivre la comparaison, la lune se trouvait très réellement arrêtée. Pour l'attirer de cette éclipse, l'excellente Catherine animait toute l'Europe, agissait énergiquement de la plume et de la langue. Si elle pouvait en effet, par la délivrance du roi, déchaîner la guerre civile, puis mettre tous les rois aux prises sur le cadavre de la France, combien lui serait-il facile, assise dans son charnier du Nord, de boire le sang de la Pologne, d'en sucer les eaux. Quand l'évasion fut tentée, ce fut le ministre de Russie qui se chargea de faire donner à la reine un passeport de dame russe. Catherine n'envoyait nul secours, mais elle trouvait très bon que Gustave III, le petit roi de Suède, qu'elle venait de battre et maintenant son ami, roi d'esprit inquiet, romanesque, aventureux, cherchait son aventure à Aix, à la porte de la France. Là, Sous prétexte des eaux, il devait attendre la belle reine fuyant avec son époux, offrir son invincible épée et, sans intérêt, enseigner au bon Louis XVI comment on refait les trônes. L'Autriche, en possession depuis Choiseul, depuis le mariage de Louis XVI de l'Alliance française, avait un intérêt bien plus direct à l'évasion du roi. Seulement, pour que la jalouse Prusse et la jalouse Angleterre laissassent s'intervenir, il fallait non seulement que Louis XVI se remît positivement à l'Autriche, mais qu'un grand parti se déclarant pour lui, un puissant noyau royaliste se formant à l'Est, l'Autriche fut, comme malgré elle, obligée, sommée par la France. La guerre civile commencée, c'était la condition expresse que notre fidèle allié mettait à l'intervention. Dès octobre 90, les conseillers de la reine, les deux hommes de l'Autriche, Mercier et Breteuil, insistèrent pour l'évasion. Breteuil envoya de Suisse un évêque avec son plan, conforme à celui que Léopold envoya plus tard. Mais ni la reine ni l'évêque ne crurent prudent de parler au roi les premiers du plan autrichien. La reine le lui fit présenter par un homme à elle, intimement lié avec elle dans ses beaux jours, et restait très dévoué, un officier suédois, M. de Fersen. Pour ne point effrayer le roi, on lui parlait simplement de se réfugier auprès de M. de Bouillet, au sein des régiments fidèles qui venaient de montrer tant de vigueur à Nancy, dans la proximité de la frontière autrichienne, à portée de secours de son beau-père Léopold. Le roi écouta, fut muet. La reine survint alors, appuya, pressa, obtint à la longue, 23 octobre 90, un pouvoir général de traiter avec l'étranger, pouvoir donné par le roi à Breteuil, l'homme de la reine. L'étranger, dès lors, ne devait plus être l'Europe, mais spécialement l'Autriche. Monsieur de Bouillet avertit, conseillait au roi de se rendre de préférence à Besançon, à portée du secours des Suisses, assuré par des capitulations, et d'ailleurs moins compromettant que celui d'aucune puissance. Ce n'était pas là le compte des conseillers autrichiens. On insista pour Montmédy, à deux lieues des terres d'Autriche. Pour s'entendre définitivement, M. de Bouillet envoya en décembre l'un de ses fils, Louis de Bouillet, qui, conduit par l'évêque, entremetteur primitif de cette affaire, alla de nuit s'aboucher avec Fersen dans une maison fort retirée du faubourg Saint-Honoré. Le jeune Bouillet était bien jeune, n'ayant que 21 ans. Fersen était infiniment dévoué, mais distrait, oublieux. Ce semble, on en jugera tout à l'heure. Ce furent pourtant ces deux personnes qui eurent en main et réglèrent le destin de la monarchie. Monsieur de Bouillet, connaissant la cour et sachant qu'on pourrait fort bien le désavouer si la chose tournait mal, avait exigé du roi qu'il écrivît une lettre détaillée pour l'autoriser, laquelle passerait sous les yeux de son fils qui en tirerait copie. Chose grave, chose périlleuse, le roi écrivait et signait un mot qui, 2 ans après, devait le mener à la mort. Il faut s'assurer avant tout des secours de l'étranger. En octobre, le roi, dans la première approbation qu'il donnait au projet, disait seulement qu'il comptait sur les dispositions favorables de l'empereur et de l'Espagne. En décembre, il veut leur secours. Le projet d'abord avait eu une apparence française. Le succès de M. de Bouillet à Nancy avait donné l'espoir qu'un grand parti, et dans l'armée et dans la garde nationale, se prononcerait pour le roi, que la France serait divisée. Il suffisait alors à M. de Bouillet que l'Autrichien fît une démonstration extérieure, seulement pour donner prétexte de réunir des régiments. À mesure, un fait se déclara qui changeait la face des choses, l'unanimité de la France. L'affaire devint toute étrangère. M. de Bouillet avoue qu'il avait besoin de troupes allemandes pour contenir le peu qui lui restait de français. Il exigeait, dit son fils, le secours des étrangers. À Paris, l'évasion fut tramée chez un Portugais, dirigé par un Suédois. La voiture qui y servit fut cachée chez un Anglais. Ainsi, dans ses moindres détails comme dans ses circonstances les plus importantes, l'affaire apparaît et fut une conspiration étrangère. L'étranger déjà au cœur du royaume nous faisant la guerre par le roi. Et le roi même, la reine, qu'était-il ? Étrangers, tous deux par leur mère. Lui, né Bourbon saxon, elle, née Lorraine Autriche. Les souverains en général, en qui les peuples cherchent les gardiens de leur nationalité, se trouvent ainsi, par leur parenté et mariage, moins nationaux qu'européens, ayant souvent à l'étranger leurs relations les plus chères, leurs amitiés, leurs amours. Il est peu de rois qui, en bataille contre un roi, ne se trouvent avoir en face un cousin, un neveu, beau-frère, etc. Ces rapports qui, en justice, obligent les hommes à se récuser, ne sont-ils pas des causes de suspicion légitime dans cette suprême justice des nations qui se plaide en diplomatie ou se tranche par l'épée ? Ne l'homme sous lequel la marine française s'était relevée contre l'Angleterre n'était certes pas un roi étranger de sentiment, il l'était de race. L'Allemand était son parent, l'Espagnol était son parent. S'il avait quelques scrupules d'appeler l'Autriche, il le combattait par l'idée qu'il appelait en même temps le roi d'Espagne, son cousin. Il était encore étranger, par un sentiment extérieur, supérieur à ses yeux, à toute nationalité, étranger de religion. Pour le chrétien, la patrie est une chose secondaire. C'est vrai, sa grande patrie est l'Église, dont tout royaume et province. Le roi, très chrétien, oint par les prêtres au sacre de Reims, lié par le serment du sacre, et n'en étant point délié, jugé nul tout autre serment. Quoiqu'il connût très bien les prêtres, et ne les eût pas toujours écoutés, ici il les consulta. L'évêque de Clermont le confirma dans l'idée que l'atteinte aux biens ecclésiastiques était sacrilège, mars 90. Le pape, dans l'horreur que lui inspirait la constitution civile du clergé, septembre 90. L'évêque de Pamiers lui apporta son plan d'évasion, octobre, et la nécessité où il fut de sanctionner le décret du serment des prêtres, 26 décembre, leva en lui tout scrupule. Le chrétien tua le roi, le français. Sa faible et trouble conscience se rebaissait de deux idées. Celle dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre. Premièrement, il croyait ne pas imiter Jacques II, ne pas quitter le royaume. Deuxièmement, ne pas imiter Charles Ier, ne pas faire la guerre à son peuple. Ces deux points évités, ce que l'histoire d'Angleterre lui avait mis dans l'esprit, il ne craignait rien au monde, se reposant tacitement sur la vieille superstition qui enhardit les rois à tant de démarches coupables. Que m'arriverait-il après tout? Je suis loin de Dieu. Il écrivit dans la lettre qu'exigeait Bouillé qu'à aucun prix il ne voulait mettre le pied hors du royaume, pas même pour y rentrer un instant par une autre frontière, qu'il tenait absolument à n'en point sortir. Les rois ont une religion spéciale. Ils sont dévots à la royauté. Leur personne est une hostie. Leur palais est le saint des saints. Leurs serviteurs et domestiques ont un caractère sacré et quasi sacerdotal. Louis XVI fut sensiblement blessé dans cette religion par la scène qui eut lieu aux Tuileries, le 28 février au soir. Lafayette, à la tête de la garde nationale, venait de comprimer l'émeute de Vincennes et restait convaincu qu'elle était l'œuvre du château. Il revient aux Tuileries et les trouve pleines de gentilshommes armés qui sont là, sans pouvoir expliquer la cause de leur rassemblement. La garde nationale, émue encore et de très mauvaise humeur, ne montra pas pour ses nobles seigneurs les égards que des gens de leur sorte se croyaient en droit d'attendre. On leur ôta leurs épées, leurs pistolets, leurs poignards. On les baptisa d'un nom qui reviendra plus d'une fois dans la Révolution, chevalier du poignard. Désarmés, sortant un parmi les huées, quelques-uns d'entre eux reçurent de la brutalité des bourgeois armés quelques corrections fraternelles. Louis XVI, le cœur bien gros pour ce défaut de respect, fut infiniment plus sensible encore à l'expulsion des prêtres non assermentés qui, au printemps, durent quitter leurs églises. Il en reçut un grand nombre dans les maisons royales, dans les Tuileries. Il ne connaissait rien aux intrigues du clergé, ne voyait point en lui ce qu'il était, l'organisateur de la guerre civile. Il oubliait entièrement la question politique, réduisait tout à celle de la tolérance religieuse. Chose remarquable, des politiques même, des philosophes, nullement chrétiens, Sieyès, Rénal, en jugeaient ainsi. Leurs réclamations pour les prêtres durent confirmer Louis XVI dans son opposition au mouvement révolutionnaire. Lui, qui avait accordé la tolérance aux protestants, comment n'en jouissait-il pas au sein de son propre palais? Il se crut libre de tout serment, dégagé de tout devoir. Contre la révolution, il crut voir la raison et Dieu. Qu'il le voulût ou non d'ailleurs, la contre-révolution n'allait-elle pas s'opérer? Son frère, le comte d'Artois, était alors à Mantoue, auprès de l'empereur Léopold, avec les ambassadeurs d'Angleterre et de Prusse, mai 91. C'était en réalité un congrès où l'on traitait les affaires de la France. Si le roi n'agissait pas, on allait agir sans lui. Il ne tenait pas grand-place dans le plan du comte d'Artois. Ce plan belliqueux, arrangé par son factotum Calonne, supposait que 5 armées, de 5 nations différentes, entraient en France en même temps. Nul obstacle, les jeunes princes, aux autres retards que les harangues obligées aux portes des villes, menaient gaiement toute l'Europe souper à Paris. Il était, dans cette Iliade, l'Agamemnon, le roi des rois. Il faisait grâce et justice, régnait. Et le roi? Il n'en aurait que plus de temps pour la messe et pour la chasse. Et la reine? Renvoyée en Autriche ou au couvent. Léopold, à ce roman, répondait par un roman qu'au 1er juillet, sans faute, les armées seraient exactes au rendez-vous sur la frontière. Seulement, il témoignait répugnance pour les faire entrer en France. Quand même, il eut réellement l'idée de faire quelque chose, sa sœur l'en aurait empêché. Elle lui écrivait de Paris, de n'avoir pas la moindre confiance dans Calonne. Et en même temps, le roi et la reine faisaient dire au comte d'Artois qu'il se fiait à Calonne et l'autorisait à traiter pour eux. Toutes les démarches du roi et de la reine, à cette époque, sont doubles, contradictoires. Ainsi, il faut faire à Lafayette, par le jeune Bouillet, son cousin, des offres illimitées s'il veut aider au rétablissement du pouvoir royal, décembre ou janvier. Et presque en même temps, ils assurent au comte d'Artois qu'ils connaissent Lafayette, pour un scélérat et un factieux fanatique en qui on ne peut avoir aucune confiance. Ainsi, au moment même où le roi, par sa tentative de sortir des Tuileries, 18 avril, vient de constater devant l'Europe sa non-liberté, il approuve une lettre que fort étourdiment ont rédigée les Lamettes, dans laquelle on lui fait dire qu'il est parfaitement libre, 23 avril. Montmorin représenta en vain la vraisemblance de la chose. Le roi insista. Le ministre dut communiquer à l'Assemblée cette pièce unique, où il notifiait aux cours étrangères les sentiments révolutionnaires de Louis XVI. Dans cette lettre ridicule, le roi, parlant de lui-même en style jacobin, disait qu'il n'était que le premier fonctionnaire public, qu'il était libre et librement avait adopté la Constitution, qu'elle faisait son bonheur, etc. Ce langage tout nouveau où chacun sentait le mensonge, cette voix fausse qui détonnait, firent au roi un tort incroyable. Ce qu'on avait encore d'attachement pour lui ne résista pas au mépris qu'aspirait sa duplicité. Tout le monde jugeait qu'en même temps il écrivait un démenti. Et tout cela était exact. Le roi trompait Montmorin qui trompait Lamette, comme auparavant Mirabeau. Il fit dire en Prusse, en Autriche, que toute démarche, toute parole en faveur de la Constitution devait être prise en sens opposé, et que oui voulait dire non. Le roi avait reçu une éducation royale de M. de la Vauguyon, le chef du parti jésuite. Son honnêteté naturelle avait repris le dessus dans les circonstances ordinaires, mais dans cette crise où la religion et la royauté se trouvaient en jeu, le jésuite reparut. Trop dévot pour avoir le moindre scrupule d'odeur chevaleresque, et croyant que celui qui trompe pour le bien ne peut que trop tromper, il dépassait la mesure et ne trompait pas du tout. L'Autriche ne semblait pas avoir cru plus que la France à la bonne foi de Louis XVI. Et peut-être en effet restait-il assez beau français pour vouloir tromper l'Autriche en profitant de ses secours. Il lui demandait seulement une 10 000 hommes, force insignifiante et d'ailleurs fort balancée par une armée espagnole par les 25 000 Suisses que les capitulations les obligeaient de fournir sur la réquisition du roi. Aussi, les Autrichiens ne se pressaient nullement. Ils attendaient, alléguaient les oppositions de la Prusse et de l'Angleterre. Il ne leur convenait point de venir ainsi gratis et seulement pour la montre, comme figurant de comédie, pour enhardir et rallier les royalistes, pour créer au roi une force. Il lui demanda au contraire de prouver qu'il en avait une, de commencer la guerre civile. Pour les décider à prendre sur eux le poids d'une telle affaire, il fallait les intéresser. Si le roi lui offert l'Alsace, quelques places au moins, son beau-frère, le sensible Léopold, aurait, malgré ses embarras, agi plus efficacement. Telle était la situation de ce triste Louis XVI, et ce qui fait qu'on en a pitié, quoiqu'il trompât tout le monde. Il n'avait rien de sûr, ni au dehors, ni au dedans, ni dans sa famille même. Il ne trouva en elle qu'égoïsme. Loin qu'elle lui fût un soutien, elle contribua singulièrement à sa perte. Ses tantes y contribuèrent, ayant hâte de partir avant lui, soulevant ainsi la terrible discussion du droit d'émigrer, diminuant d'autant pour le roi les chances de l'évasion. Monsieur y contribua. Il donna lieu au roi de craindre qu'il ne partît seul, ce qui était pour Louis XVI un danger réel. Monsieur était fort suspect. Il avait essayé d'enlever le roi par Favras, sans avoir son consentement. Beaucoup parlaient de le faire régent, lieutenant général, roi provisoire dans la captivité du roi. Mais personne ne contribua plus directement que la reine à la perte de Louis XVI. Craignant à l'excès la séparation, se tenant au roi, se serrant à lui, voulant partir ensemble et avec tous les siens, elle lui rendit la fuite presque impossible. Une préoccupation excessive de la sûreté de la reine fit que M. de Mercy, ambassadeur d'Autriche, exigea, contre le bon sens, contre l'avis de M. de Bouillé, qu'une suite de détachements serait échelonnée sur la route qu'elle devait parcourir. Précaution très propre à inquiéter, avertir, ameuter les populations. Très insuffisante pour contenir les masses d'un peuple armé, très inutile pour le roi qui, personnellement, n'était point du tout haï. On a vu plus haut, naïvement exprimé par un journal, l'opinion réelle du peuple. Que Louis XVI pleurait à chaudes larmes des sottises que lui faisait faire l'Autrichienne. Même reconnu, il eut passé. Peu de gens auraient eu le cœur de mettre la main sur lui. Mais la vue seule de la reine réveillait toutes les craintes. Faisait sentir, même aux royalistes, le danger de la laisser conduire ainsi le roi de France aux armées de l'étranger. La reine afflua encore d'une manière très funeste sur l'exécution du projet, en choisissant pour agents non les plus capables, mais les plus dévoués à sa personne, ou les clients de sa famille. Son fidèle M. de Fersen, son secrétaire Gogola, qu'elle avait employé pour des missions fort secrètes près d'Esterhazy et autres. Enfin, le jeune Choiseul, d'une famille chère à l'Autriche, jeune homme aimable, plein de cœur, d'une très grande fortune, qui se faisait une fête de recevoir la reine royalement dans sa Lorraine, plus propre à la bien recevoir qu'à la sauver ou la conduire. M. de Bouillé voulut évidemment plaire à la reine en confiant à ce jeune homme un des rôles les plus importants dans l'affaire de l'évasion. Ce voyage de Varennes fut un miracle d'imprudence. Il suffit de bien poser ce que le bon sens voulait, puis de prendre le contraire. En suivant cette méthode, si tous les mémoires périssaient, on retrouverait l'histoire. D'abord, 2 ou 3 mois d'avance, la reine, comme pour avertir de départ, fait commander un trousseau pour elle, pour ses enfants. Puis, elle fait commander un magnifique nécessaire de voyage, semblable à celui qu'elle avait déjà, meuble compliqué qui contenait tout ce qu'on eût désiré pour un voyage autour du globe. Puis, au lieu de prendre une voiture ordinaire, peu apparente, elle charge Fersen de faire construire une vaste et capace berline où l'on puisse, devant et derrière, ajuster, échafauder, mâles, vaches, boîtes, tout ce qui fait regarder une voiture sur une route. Ce n'est pas tout. La voiture sera suivie d'une autre où l'on emmènera les femmes. Devant, derrière, galoperont 3 gardes du corps en courrier, veste neuve d'un jaune éclatant, propre à attirer les yeux, à faire croire, tout au moins par la couleur, que ce sont des gens du prince de Condé, du général des émigrés. Ces hommes, apparemment, sont des hommes bien préparés. Non, ils n'ont jamais fait la route. Ces gardes, apparemment, sont des hommes déterminés, armés jusqu'aux dents. Ils n'ont que de petits couteaux de chasse. Le roi les avait avertis qu'ils trouveraient des armes dans la voiture, mais Fersen, l'homme de la reine, craignant sans doute pour elle les dangers d'une résistance armée, a justement oublié les armes. Tout cela, c'est le ridicule de la prévoyance. Et voici le triste, l'ignoble. Le roi se laisse habiller en valet. Il s'affublé d'un habit gris et d'une petite perruque. C'est le valet de chambre Durand. Ce détail humiliant est dans le naïf récit de Madame d'Angoulême. On le trouve aussi constaté dans le passeport donné à la reine et à Madame de Tourzel, comme dame russe, baronne de Corfe. Ainsi, chose inconvenante qui elle seule révélait tout, cette dame est si intime avec son valet de chambre qu'elle le met dans sa voiture en face d'elle et genou contre genou. Pitoyable métamorphose, que le voilà bien caché. Et qui le reconnaîtrait? Disons mieux maintenant, qui voudra le reconnaître? La France? Non, à coup sûr. Si elle le voit ainsi, elle détournera les yeux. « Vous mettrez, dit Louis XVI, dans la caisse de la voiture l'habit rouge brodé d'or que je portais à Cherbourg. » Ce qu'il cache ainsi dans les coffres aurait été sa défense. L'habit du jour, le roi de France, apparu contre l'Angleterre au milieu de sa marine, valait mieux pour le sacré que la sainte ampoule de Reims. Qui eût osé l'arrêter si, écartant ses vêtements, il lui montrait cet habit? Il aurait dû le garder, ou plutôt garder le cœur français comme il l'eut alors.